Voilà une situation dont le profane ne voit pas la solution, alors que l'hôpital public a montré son utilité et ses fragilités. Ô combien ? Pendant la crise sanitaire, tout indique que près de 2 ans après le début de la pandémie, eh bien cet hôpital est encore plus fragile. D'une récente enquête du conseil scientifique sont sortis ces chiffres, 20% de lits fermés dans les hôpitaux, faute de personnel paramédical, mais médecin aussi, à tel point qu'une réforme qui devait limiter les rémunérations des intérimaires a été ajournée par peur qu'ils désertent l'hôpital. La tension est forte en particulier dans certains services d'urgence. Pourquoi le métier est-il aussi peu attractif, malgré les augmentations de salaire du Ségur de la Santé? Qu'est-ce qui boite dans l'organisation du système de soins, pourtant il y a peu considéré peut-être comme le meilleur au monde? Quels enseignements tire-t-on de la crise Covid? 01 45 24 7000 et l'appli France Inter pour vos questions et témoignages, que vous soyez soignant ou patient à l'hôpital ou ailleurs. Avec nous jusqu'à 13h45, le fondateur du collectif Interhôpitaux, professeur de diabétologie à la Pitié-Salpêtrière à Paris, André Grimaldi. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous publiez chez Odile Jacob Manifeste pour la santé 2022, à l'approche de la présidentielle, constat sévère sur le système de soins en France et des pistes aussi pour s'en sortir. Un mot du Covid, la France semble se sortir plutôt mieux de cette nouvelle vague, André Grimaldi, que les autres. Est-ce que vous qui êtes très critique sur la gestion du Covid, vous constatez cela aussi ?
Je suis moins critique sur la gestion de la vaccination, sauf au début. Au début, ça a été catastrophique, hein. Mais depuis, on a rattrapé, et c'est la vaccination qui nous protège. Alors, c'est pas une protection absolue.
Oui. Hein.
On sait que la contagiosité a diminué, mais continue, donc il faut continuer les mesures barrières. Par contre, le vaccin est très efficace sur les formes graves, notamment de réanimation.
Et la campagne de vaccination, après des débuts ratés, a bien pris en France, mieux que dans d'autres pays.
A bien pris en compte, et aujourd'hui, beaucoup de la population est vaccinée. Alors, il reste encore des personnes de plus de 65 ans, donc à risque, ou des personnes ayant des comorbidités, diabétiques, obésité, maladies cardiovasculaires, qui doivent se faire vacciner.
20% de lits fermés en cas de flash qui demandent à être confirmés par une étude plus approfondie, mais elle recoupe les témoignages extrêmement nombreux d'hospitaliers qu'on a pu lire dans la presse ces derniers jours. 20% de lits fermés faute de personnel à l'hôpital, alors que 10 milliards d'euros ont été consacrés aux revalorisations de salaire. Pourquoi, André Grimaldi, les métiers de l'hôpital, métiers paramédicaux, mais pas seulement, ne parviennent pas à recruter?
Parce que les conditions de travail se sont profondément dégradées. La motivation, elle est là. Faut savoir que chaque année, 1 million de jeunes postulent à faire des études soit de médecine, soit d'infirmier.
1 million.
1 million chaque année, plus. Hein. Alors, moyennant quoi, tous ne sont pas admis, évidemment, mais beaucoup partent. Dans les 5 ans qui suivent le diplôme d'État, 1/3 des infirmières changent de métier. Pourquoi ? Parce que leur métier a perdu le sens de leur engagement. Mmh. Et notamment les conditions de travail sont vraiment dégradées, pour la raison, alors bien avant le Covid, pour la raison qu'on a voulu traiter l'hôpital comme une entreprise, et une entreprise sous contrainte budgétaire.
Oui.
Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Ben, ça a commencé d'ailleurs avec les 35 heures, les difficultés de conditions de travail. Vous avez des horaires variables. Un jour, vous commencez à 7h du matin, la semaine d'après, vous commencerez à 14h. Un jour, vous êtes dans un service, le lendemain, vous êtes dans un autre service. Vous êtes une infirmière pour 12 lits. Il y a un absentéisme, vous voilà une infirmière avec 14 lits ou 15 lits. Bon, à la fin, il y a un cercle vicieux. Et, bon, c'est ce qui le sens du travail se perd et vous partez. Alors, le Covid est intervenu à la fois comme fatigue de travail, mais aussi comme déception. Parce que ce que vous dites, le Ségur, ça a été un Grenelle sur les salaires. Assez important, 10 milliards, c'est pas rien. Bien qu'on soit toujours en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, hein. Pour le salaire infirmier, on était en 28e position sur 32. On est passé à la 16e position.
Alors, comment rend-on le métier?
On n'a rien fait sur le fonctionnement de l'hôpital.
Comment rend-on le métier plus attractif? Parce qu'il y a des pistes aussi dans votre livre.
La première chose à faire, c'est que, il faut reconstituer un travail d'équipe. Vous êtes un soignant, infirmière, aide-soignante, médecin. Vous êtes dans une équipe et une équipe stable. Vous voyez les malades dans la durée de leur suivi. Vous savez pas, une infirmière qui le voit le lundi, puis le mardi, ce sera pas elle, ce sera une autre. Donc vous êtes dans une équipe stable. Or aujourd'hui, les infirmières sont embauchées non pas dans un service, mais dans un pôle avec plusieurs services, et on les mutualise d'un service à l'autre. Donc faut arrêter avec ça. Il faut que le budget de l'hôpital soit non pas des tarifs, qu'il y a des tarifs rentables, des tarifs pas rentables, et alors c'est le tarif qui va guider l'activité.
Tarification à l'acte.
La tarification à l'acte qui fait qu'on augmente au maximum l'activité. En 10 ans, on a augmenté de 15% l'activité, on n'a pas augmenté le personnel soignant. Le Ségur n'a pas prévu d'embauche de personnel. Il a prévu d'augmenter les salaires. Donc, c'est la première chose à faire. Et ensuite, il faut que donc qu'il y ait un budget qui soit co-géré. Non pas une administration qui gère ça comme une entreprise, mais une co-gestion avec les soignants et la participation des soignants, notamment pour la qualité des soins.
Et l'articulation avec le privé. Alors, je voudrais qu'on entende le témoignage de Joseph. Bonjour, Joseph.
Bonjour.
Nous vous écoutons, vous nous appelez de Limoges.
Oui, tout à fait. Alors, c'est une expérience que j'ai vécue il y a une semaine, hein. C'est frais. Je téléphone au CHU pour aller prendre un rendez-vous pour un urologue. Oui. Et là, quelle n'est pas ma surprise de m'entendre dire « Vous le voulez en service privé, en système privé ou public ?» Privé, un mois d'attente, grosso modo, à quelques jours près. Public, 4 mois d'attente. C'est des mêmes pathologies dont on parle, c'est des mêmes lits dont on parle. Physiquement, enfin, je veux dire, on n'est pas sur un lit mieux fait, ou moins bien fait, quoi. Je veux dire, c'est... Et là, je suis tombé des nues. J'ai eu envie, depuis un certain nombre d'années, de me permettre, mais là, je sais que, juridiquement parlant, je pourrais être pénalisé, j'avais envie d'enregistrer ce genre de propos. Parce que la secrétaire m'a répondu sur un ton quasi badin, oui, public ou privé.
Alors, Joseph, on va soumettre...
Je ne sais pas si le toubib est rémunéré de façon différente s'il est en service public ou en service privé. J'ai arrêté là parce que j'étais... Je suis tombé des nues.
Professeur Grimaldi.
Oui, c'est une histoire qui vient de très loin. Hein. C'est-à-dire qu'en 1958, quand on instaure le plein temps hospitalier, avant, les médecins travaillaient le matin à l'hôpital et l'après-midi en ville, où ils avaient une liberté d'honoraires. Alors, en 58, on instaure le plein temps hospitalier. Mais pour que les médecins viennent, il y a une concession qui est faite, et vous aurez possibilité de faire venir votre clientèle privée. L'idée à l'époque de Robert Debré, qui était l'initiateur, le père du premier ministre de l'époque, était que ça durerait d'une génération. Et puis ensuite, ça s'est pérennisé. Et ça se pérennise pourquoi ? Qu'il y a une grosse différence de revenus, notamment pour les chirurgiens, notamment pour les anesthésistes, lorsqu'ils travaillent en ville, dans des cliniques, et quand ils travaillent à l'hôpital. Et alors, le paradoxe, c'est que le Ségur a dit, il faut augmenter l'activité libérale à l'hôpital pour maintenir l'attractivité. Parce que où est-ce qu'ils partent les médecins, les urgentistes ? Où est-ce qu'ils partent les anesthésistes ? Où est-ce qu'ils partent les chirurgiens qui disent « il y en a marre de travailler à l'hôpital ».
Et on ne peut pas leur reprocher, honnêtement, si le travail à l'hôpital, les conditions que vous décriviez...
Exactement. Ce qui se passe pour un chirurgien, c'est que ses conditions de travail se sont dégradées. Parfois, il dit « ah ben non, on ne peut pas opérer, le bloc n'est pas ouvert, il faut reporter le malade, etc. » Et il gagne moins qu'en clinique. Alors, on veut gérer l'hôpital comme une clinique, en n'ayant que des inconvénients. Eh ben, le chirurgien s'en va. Alors, si on veut régler ce problème-là, il faut arrêter ce dépassement d'honoraires qui parfois sont exorbitants. Hein. Pour une prothèse de hanche, j'ai vu 3000 euros. Pour une hernie inguinale, 700 euros. Donc, faut arrêter ça. Faut qu'on ait un système intégré où il n'y a pas de disparité de mercato.
Mais quoi, on interdit les dépassements d'honoraires, on les rembourse pas, on demande aux mutuelles de ne pas les rembourser.
On peut pas avoir un système solidaire avec les dépassements que l'on veut.
Mais ça veut dire que concrètement, on fait pression sur les mutuelles, puisque c'est par là que ça passe, pour ne pas qu'il y ait de remboursement.
Ça serait logique si, écoutez, il y a le secteur 1, c'est-à-dire le secteur au tarif de la sécurité sociale remboursée, qui est l'immense majorité des médecins hospitaliers, l'immense majorité des médecins généralistes. Après, il y a les médecins spécialistes qui, souvent, sont en dépassement d'honoraires. Notamment parce que les tarifs de la sécurité sociale sont parfois dérisoires, pas adaptés du tout. Hein, pour une chirurgie de la thyroïde, pour un cancer de la thyroïde, c'est pas adapté. Pour un cancer de l'œsophage, c'est pas adapté. Le chirurgien dit « je peux pas ». Hein. Donc ça suppose de revaloriser ses salaires. Et ensuite de dire, ben, si vous voulez dire à votre patient « est-ce que vous avez une bonne mutuelle ?» La question qu'on pose actuellement, hein, que les médecins spécialistes posent, « est-ce que vous avez une bonne mutuelle ?» Alors faut accepter que les mutuelles créent des réseaux et contrôlent la logique de ces dépassements. Et puis, il faudrait que la sécurité sociale revalorise le secteur 1 et rembourse à 100% comme elle a fait dans la crise du Covid. Dans la crise du Covid, tout était gratuit par la sécurité sociale et il n'y avait pas de gaspillage.
On attend un rapport qui a été commandé par le gouvernement sur l'hypothèse d'un tout sécu. Est-ce que vous y seriez favorable, pardon, on oublie les mutuelles?
Alors, tout à fait favorable, c'est-à-dire qu'une sécurité sociale, mais ça suppose aussitôt de dire deux choses. La sécu va rembourser, grande sécu, ça veut dire elle rembourse à 100% les soins. Mais qu'est-ce qu'elle rembourse? Qu'est-ce qui relève de la solidarité? Qu'est-ce qui n'en relève pas? Vous avez vu l'histoire des tests. Il y a eu un moment donné, on dit les tests, vous y allez spontanément, ils seront remboursés. Et puis maintenant, on a la vaccination. Vous voulez continuer à pas vous vacciner, alors c'est un choix personnel, ça relève plus de la société, vous les payez.
Et de votre point de vue, c'est légitime cette décision?
C'est légitime. Vous les payez personnellement, vous les payez par une mutuelle. Il y a un seuil de soins de confort qui sont indiscutablement de confort. Bon, je pense à des cures thermales, vous êtes mieux après qu'avant, très bien. Est-ce que ça relève de la solidarité ou pas ? Agnès Buzyn avait dit que l'homéopathie ne sera plus remboursée par la Sécu. Donc ça suppose ce problème-là. Deuxièmement, ça suppose pas de dépassement d'honoraires. Ou alors, dépassement d'honoraires sous contrôle des mutuelles. Hein, et on a un système très différent, c'est-à-dire qu'on arrête avec une spécificité française qui est que pour le même soin, vous avez une gestion par la Sécu et une gestion par la complémentaire, ce qui fait que en frais de gestion du système de santé, on est deuxième derrière les USA en dépenses, on est très au-dessus de la moyenne de l'OCDE, on dépense 7,5 milliards de frais de gestion pour les mutuelles et 7,3 milliards pour la Sécu.
Et il y a plus de personnel administratif dans nos hôpitaux que de médecins. Exact. Dites-vous, ça pose la question du budget de la Sécu, mais d'abord je voudrais qu'on entende Joël au standard. Bonjour Joël, vous nous appelez de Metz.
Oui, bonjour, je vous appelais de Metz. C'était pour évoquer un problème. J'ai une maman qui est en EHPAD sur Metz, donc à proximité d'ailleurs d'un beau CHU. Et dans l'EHPAD où elle se trouve, à l'heure actuelle, il y a 20 résidents qui n'ont plus de médecin attitré. Et l'EHPAD, qui est un ensemble de 3 EHPAD en fin de compte, ils n'ont plus de médecin coordinateur, ils n'arrivent pas à en recruter un. Donc ça a un lien par rapport au problème qui se pose entre la médecine de ville et la médecine hospitalière. Vous imaginez très bien les difficultés que rencontre l'EHPAD par rapport aux soins de ses résidents. Ils sont obligés de se tourner vers des choses qui normalement ne devraient pas exister. Faute de médecin traitant, qui ne peut plus faire l'interface par rapport à l'hôpital, et c'est très très compliqué. On n'est pas en zone rurale. En plus,
ouais, voilà, il y a même pas cet aspect-là. Professeur Grimaldi, oui. L'articulation,
ça c'est un énorme
avec
problème
la médecine
qu'on a historiquement. On a un système qui fonctionne en silos, séparés, l'hôpital, la ville, les médecins, les infirmières d'un côté. Il faut aller, alors, il y a des choses qui se font, hein, néanmoins, mais il faut aller vers un système intégré, hein, qui a un dossier partagé. Il faut qu'il y ait des infirmières spécialisées en France.
Dossier partagé, ça existe déjà.
Non, ça n'existe pas. En pratique, c'est en route toujours, mais ça n'existe pas. Hein. C'est très, très minoritaire. Il faut que le dossier puisse être le même pour les infirmières, pour les médecins, autour du patient. Il faut que des spécialités, comme la médecine générale, la gériatrie, soient complètement revalorisées au choix des internes. Arrivant que quoi, en dernier, la psychiatrie, qui est sinistrée en France, la gériatrie,
dont on a besoin avec le vieillissement de la population.
Et la médecine générale qui a progressé, mais qui est encore dans les derniers. Hein. Pour la première fois, d'ailleurs, le major a choisi la médecine générale. Mais avant, c'était très, très en dernier. Donc il faut changer ça, et il faut qu'il y ait une coordination, et le rôle des infirmières spécialisées de coordination est essentiel, qui font le lien entre les établissements de ville et l'hôpital.
Une dernière question, professeur Grimaldi, on arrive au terme de cet entretien. En quoi l'élection d'une partie des députés à la proportionnelle changerait la donne ? C'est une des toutes dernières propositions de votre livre.
Ben c'est qu'on a un déficit de démocratie dans ce pays. Vous avez bien vu la gestion de la crise.
Et en quoi ça changerait le système de santé ?
Ben, ça, ce serait qu'après, on a proposé, le collectif interhôpitaux a proposé, par exemple, un référendum d'initiative partagée avec 200 députés. Et puis le Conseil constitutionnel a dit non. Où est-ce que les Français ont été interrogés pour savoir ce qu'ils veulent dépenser pour la santé ? Est-ce qu'on dépense trop ou pas assez ? Est-ce que les Français peuvent le dire à un moment donné ? Vous votez pour une personne, homme ou femme, qui devient président de la République, et après il fait ce qu'il veut pendant 5 ans.
Merci André Grimaldi. Manifeste pour la santé 2022, c'est aux éditions Odile Jacob.